Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Les premiers navigateurs du Vendée Globe partis des Sables d'Olonne en novembre dernier ont dû percevoir un changement de taille dans le golfe de Gascogne à leur arrivée fin janvier. Pas un chalut à l'horizon, pas un filet, pas une scène en profondeur. Et pour cause, depuis le 22 janvier dernier, les bateaux de pêche de plus de 8 mètres de long sont bannis des eaux froides de cette zone de l'Atlantique, et ce jusqu'au 20 février. Objectif, donner un peu de souffle aux dauphins dont les populations sont de plus en plus menacées par les pêches dites accidentelles, si tant est qu'on puisse qualifier d'accident le fait de poser un filet et de voir poisson ou cétacé se prendre dans ses raies. Entre 2016 et 2024, on estime en moyenne le nombre de dauphins ainsi tués non intentionnellement entre 4000 et 9000, alors que le Conseil international pour l'exploration de la mer, le CIEM, fixe à 4900 le seuil de mise en péril de cette population. Le 23 octobre 2023, sous la pression d'une directive européenne, le ministre chargé de la mer prenait donc un arrêté interdisant la pêche dans le golfe de Gascogne pendant 4 semaines, durant les hivers 2024, 2025, 2026. Si l'hiver 2024 fut à l'image des mesures contre les néonicotinoïdes largement vidés de leurs substances à force de dérogations jugées depuis illégales par le Conseil d'État, l'interdiction en cet hiver 2025 se montre nettement plus stricte, aux grandes dames bien sûr des pêcheurs pour qui ce n'est pas toujours facile. Alors, est-il possible de concilier pêche et protection des océans? Pas sûr, mais des scientifiques travaillent à la mise au point de dispositifs qui pourraient permettre de limiter fortement la casse en signalant la présence de ces filets aux dauphins et autres petits cétacés. Si un dauphin averti en vaut deux, comment faire pour communiquer avec ces animaux dont la réputation en termes d'intelligence bien sûr n'est plus à faire? En utilisant des balises acoustiques, des balises bio-inspirées, sont développées dans le cadre d'un projet baptisé Dolphin Free et mené par Bastien Mérigaud, chercheur au laboratoire de biologie sous-marine Marbec. Avec Loïc Léneuf, désormais docteur à Marbec, ils ont travaillé sur les sons qu'émettent ces animaux marins en présence de la balise ou en présence de filets de pêche, et pour cela ils ont utilisé l'intelligence artificielle. On en parle avec eux pendant les prochaines 20 minutes. Bastien Mérigaud, bonjour, bienvenue dans Allume la science. Loïc Léneuf, donc vous êtes docteur, mais alors peut-être pas docteur à Marbec, si vous êtes toujours...
Si, actuellement docteur à Marbec.
Super, tout va bien. Alors bienvenue dans Allume la science. Merci. Également. C'est une balise acoustique à elle seule, capable d'imiter le rire de Flipper à l'aide de sa gourde. Nous lui demanderons une démonstration en fin d'émission avec moi pour mener cette interview. Aline Perriot.
Bonjour, j'ai hélas perdu cette gourde. On remettra la démonstration.
Dommage. En deuxième partie d'émission, nous partons à Sète où Laurent Dagorne du laboratoire Marbec nous emmène sur la plateforme de biologging, une technique de marquage des animaux marins avec des balises permettant de suivre leurs déplacements. En fin d'émission, Anaëlle Francia, étudiante en master de gestion de l'environnement et de la biodiversité, nous donne les programmes des 8 jours de la biodiversité qui se tiendront sur plusieurs sites de Montpellier du 12 au 19 février. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors, Loïc Léneuf et Sébastien Mérigaud, vous n'êtes pas les seuls à vous intéresser à ces sifflets donc chez les dauphins. Les travaux précédents portaient essentiellement sur le gros dauphin, Turcipos truncatus, si je ne me trompe pas. Alors, vous avez choisi de vous intéresser au dauphin commun à bec court. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette espèce, Loïc?
Alors, le grand dauphin, c'est Turcipos truncatus, mais ce qu'on peut dire, l'intérêt du dauphin commun, c'est que c'est celui qui est déjà le plus présent sur les côtes françaises en Atlantique. C'est pour ça qu'il nous intéresse, et puis c'est surtout parce qu'il est concerné par les captures accidentelles. Le grand dauphin, il a été énormément étudié, que ce soit au niveau acoustique ou au niveau écologique, mais c'était surtout des études qui sont menées à l'étranger. En fait, le dauphin commun, il est commun en France, et il n'est pas si connu que ça, donc en fait, ça nous intéresse d'aller voir plus en profondeur comment il se comporte et quels sont les produits.
Alors j'en profite pour me rattraper, j'ai écorché votre nom, Sébastien Mérigot. Non, pas Sébastien, quelque chose à ajouter ?
Non, je pense que Louis, qu'il a été complet sur cet aspect-là, en fait, c'est que la première motivation, ça a été de pouvoir étudier cette espèce parce qu'elle représente à peu près 90% des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne, donc qui s'étend de la Bretagne jusqu'au Pays Basque. Et donc ça a été la principale motivation de pouvoir développer un dispositif pour limiter ces captures accidentelles et essayer de comprendre comment il va répondre à ce dispositif-là.
Alors justement, ces captures accidentelles dont on parle, est-ce qu'on peut juste revenir dessus ? On imagine que les dauphins sont capturés, mais ils ne sont pas relâchés. Qu'est-ce que ça représente ? On parle de 8950 individus tués suite à des prises accidentelles en 2021. Ça représente quoi par rapport à la population totale de cette espèce dans le golfe de Gascogne ?
Alors la population totale, elle est difficile à estimer, mais on l'évalue à peu près à 180 000 individus dans le golfe de Gascogne. Et donc on estime en fait que si le taux de capture continue à ce rythme-là, d'ici 20-30 ans, la population sera plus sur un statut de durabilité. Donc on sera dans une situation vraiment plus que critique à ce moment-là, quoi.
Et alors pourtant, les dauphins, ils sont équipés de sonars. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'ils ne détectent pas les filets de pêche ?
C'est une question qui est intéressante et c'est une question à laquelle on n'a pas encore vraiment de réponse. On sait que les dauphins sont capables de détecter la présence d'un filet, mais seulement à partir de quelques mètres de ce filet, puisque les clics d'écholocalisation des dauphins qui leur permettent de se repérer dans l'espace sont assez directifs. Et donc c'est assez difficile pour eux de repérer ces filets. Par contre, on essaie de mener des études pour comprendre ce phénomène. Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse précise à ce sujet et justement, c'est un besoin qu'on a de faire plus d'études pour comprendre comment se produisent ces captures accidentelles.
Il y a quelques hypothèses qui sont formulées. La première, en fait, c'est que lorsque le pêcheur déploie le filet à l'eau, il le fait en mouvement avec le bateau qui avance. Et donc l'hélice, elle va produire des nuages de bulles qui pourraient produire un masque acoustique. Et donc quand il va envoyer des clics d'écholocalisation, il ne va pas avoir de retour. Donc de réponse de son sonar en fait, et donc il ne va pas voir le filet, donc potentiellement il peut se capturer à ce moment-là. Une autre hypothèse, c'est lorsque le filet est en pêche au fond des océans, potentiellement il peut y avoir des bancs de poissons qui sont devant ce filet, et donc le dauphin en fait quand il chasse, il fonce dans le banc de poissons pour les capturer. Or si y a un filet qui est derrière ce banc, il ne va pas voir le banc en écholocalisant dessus. Il ne va pas voir le filet, pardon, et donc il va s'entraver dans le filet dans lequel il va après s'emmailler et il va mourir asphyxié. Quoi.
Alors, Loïc Lénoff, oui.
Et juste, il y a une dernière hypothèse qui est un peu plus naïve, c'est que finalement les dauphins, ils écolocalisent pas tout le temps. Mmh. Et donc s'ils ne sont pas en train d'écolocaliser au moment où il y a un filet devant eux, bah, ils ne peuvent simplement pas le voir en fait.
Alors vous avez parlé tout à l'heure de clics en parlant des sons des dauphins, on parle aussi de sifflets. Donc est-ce que vous pouvez justement nous décrire les différents sons qui existent en termes de durée, de fréquence, peut-être de nombre d'inflexions ?
Chez le dauphin commun, il y a trois grands types de signaux qui sont émis par ces animaux. Il y a donc les clics d'écholocalisation qui sont le moyen pour les dauphins de se repérer dans l'espace et de comprendre la nature des objets qui sont devant eux. Donc ça leur sert simplement à se déplacer finalement. Ensuite, on a les sifflets ou sifflements. C'est des sons qui sont plus utilisés pour communiquer entre eux. C'est des sons qui sont plus longs, qui ressemblent finalement à un sifflement qu'on pourrait produire nous, même s'il n'est pas produit de la même manière. Et il y a un dernier type de signal qui s'appelle le buzz ou le burst pulse. Ça dépend un petit peu des articles. Et ce signal, c'est une suite de clics d'écholocalisation qui est plutôt utilisée par les dauphins dans des situations d'agression. Donc c'est encore des interactions sociales. Et donc, c'est les trois grands types de signaux qui sont utilisés par les dauphins.
Bastien Mérigot, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, pour compléter aussi, en fait, sur les clics nous, qu'on va utiliser pour la balise, on va plutôt s'intéresser aux signaux d'écholocalisation, notamment au retour d'écholocalisation, puisqu'ils arrivent à interpréter ça, a priori, en image. Et donc ça, c'est des signaux vraiment très, très brefs, c'est quelques microsecondes. Donc ça veut dire que nous, avec la balise, on va émettre des signaux vraiment de très, très courte durée. Ce qui va être intéressant aussi en termes de pollution acoustique, on va essayer d'avoir des signaux vraiment très brefs qui ne vont pas en fait, être émis de façon incessante. Voilà.
Alors cette étude, elle s'inscrit dans un projet plus large qui s'appelle Dolphin Free et pour lequel vous avez reçu, Bastien Mérigot d'ailleurs, un trophée de l'innovation. Est-ce que vous pouvez, Bastien, nous parler un peu plus de ce projet et nous expliquer notamment ce que c'est qu'une balise bio-inspirée ?
Alors bio-inspirée, c'est par rapport au type de signal qui est émis par cette balise. Et là, en fait, on a essayé de créer un signal que le dauphin va pouvoir directement interpréter. En fait, on va se servir des connaissances qu'on a sur son sonar, puisque lui, en fait, il va émettre des clics, donc des signaux très brefs, large bande de fréquence, et il va interpréter le retour de ces clics-là. Et donc la balise, elle va directement émettre des retours de clics d'écolocalisation, c'est-à-dire qu'on émet directement l'information que devrait avoir le dauphin si lui-même il avait écolocalisé sur un filet avec un dauphin mort emmaillé à l'intérieur. Donc en gros, on lui transmet une image filet avec présence d'un dauphin mort à l'intérieur pour lui signaler la présence du danger.
Alors, pour les expériences, justement, elles ont été menées donc à l'été 2020, 2021, 2022 au large de la Bretagne, à peu près vers Pinmar, pour ceux qui peuvent situer. C'est une zone très fréquentée par les dauphins, Loïc.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été choisie. C'est parce que c'est assez simple de se rendre en mer et de rencontrer des groupes de dauphins. On partait, dans le cadre de ces expériences, en Zodiac et on cherchait à rencontrer des groupes de dauphins de manière assez opportuniste. Ce n'était pas une surveillance passive qui était faite, pour pouvoir mener nos expérimentations et voir comment les dauphins réagissaient à la balise. Donc on est allé dans ce coin-là parce que c'est assez simple de rencontrer des groupes. On en a rencontré plus d'une cinquantaine et c'est comme ça qu'on les a enregistrés. On a plusieurs heures d'enregistrement comme ça.
808 minutes à peu près, je crois, c'est bien ça?
Je crois que c'est exact.
Alors ces différents types de sifflements que vous avez enregistrés, justement, ils sont difficiles à détecter dans l'enregistrement, mais aussi à dissocier des autres bruits. Pourquoi ? C'est quoi les principales difficultés qui rendent cette analyse compliquée, Loïc ?
Alors en fait, les sifflements à l'oreille humaine sont assez faciles à reconnaître. Si on veut les annoter, c'est beaucoup plus compliqué parce que les dauphins n'ont pas tendance à parler tout seuls, ils parlent tous en même temps.
Les annoter, ça veut dire quoi par
Les annoter, ça veut dire qu'on va prendre dans les enregistrements audio qu'on a des séquences qu'on va essayer de classer en disant là il y a présence de sifflement, là il n'y a pas de présence de sifflement. Et ensuite on peut aller plus dans le détail, on va essayer d'identifier vraiment le début, la fin de chaque sifflement et éventuellement sur quelle bande de fréquence ils s'étendent. Et donc c'est difficile parce que les dauphins, surtout quand ils sont en groupe, ils parlent tous en même temps, c'est comme nous. Et donc c'est facile à entendre comme différence, mais à noter, derrière à identifier, c'est beaucoup plus complexe.
En revanche, on le différencie assez facilement du bruit des autres animaux marins, par exemple, qui peuvent être dans la même zone.
Alors, ça dépend des animaux marins. Si on parle, par exemple, des grands dauphins, ils produisent des sons qui sont assez similaires aux dauphins communs. C'est des espèces qui sont plutôt proches. Et donc, les sifflements se ressemblent beaucoup. Donc, ça peut être complexe. Mais un sifflement de dauphin par rapport à un sifflement de baleine, par exemple, c'est des sons qui s'étendent pas du tout sur les mêmes bandes de fréquences. Les signaux de dauphin sont presque dans les ultrasons, alors que ceux des baleines sont sur des fréquences très basses. Et donc ça, c'est assez facile à différencier. Donc ça dépend de quelle espèce on parle.
Alors vous parlez de contours de son. Et alors ce qui peut nous interpeller, c'est que vous avez utilisé des techniques de traitement d'image appliquées justement au son. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Loïc Lenneuf, toujours.
Oui. Alors le son, on l'imagine peut-être comme une forme d'onde. C'est l'évolution d'une pression dans le temps. Sauf qu'on ne l'imagine pas comme ça, même nous, quand on se parle les uns les autres, on ne l'imagine pas comme ça. On le voit plutôt en termes de temps et de fréquence. Et en fait, c'est une représentation qui est en deux dimensions, le temps et fréquence, comme une image. Et donc c'est pour ça qu'on parle de technique d'image, parce qu'on se sert de cette représentation en temps-fréquence pour derrière analyser les sifflements. On ne se sert pas directement de la forme d'onde, qui est une représentation peut-être simplifiée, mais assez complexe à utiliser telle qu'elle.
Alors pour analyser ces sifflets, justement, vous avez utilisé, vous, dans votre étude, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez, Bastien Mérigaud, nous expliquer ce que vous lui avez demandé exactement à cette IA ?
Cette IA, en fait, on lui a demandé de pouvoir détecter automatiquement des signaux de sifflement dans les enregistrements. Parce que, comme le disait Loïc, on peut le faire de façon non visuelle, graphiquement, en annotant les signaux. Mais ça va être très, très chronophage, puisque là, on avait 13 heures d'enregistrement. Donc là, ce qu'on a demandé à l'IA, en fait, c'est après l'avoir entraîné, c'est-à-dire en ayant déjà, sur certains enregistrements, annoté des sifflements, on l'a entraîné à pouvoir, par elle-même, après détecter ces signaux dans les enregistrements.
Et c'était chronophage, c'est-à-dire qu'en termes de temps, ça vous a fait gagner combien de temps l'IA, Loïc Lenneuf ?
Alors, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a annoté une petite partie des données, à peine 5% des données à la main. Et ces 5% des données qu'on a utilisées pour entraîner notre IA, derrière, on n'a pas eu besoin d'annoter le reste. Ce qui veut dire que l'estimation qu'on a fait, c'est qu'on a gagné à peu près, on a fait 6 fois plus rapide en utilisant l'intelligence artificielle que si on l'avait fait à la main. Donc ça fait gagner énormément de temps qu'on peut passer à analyser les données plutôt que les annoter, par exemple.
Alors, donc justement, pour observer les caractéristiques des sifflements, vous avez défini trois paramètres, vous avez pris en compte trois paramètres. L'état comportemental des dauphins, donc en deux mots, c'est quoi les différents états comportementaux, Bastien Mérigaud ?
En fait, l'état comportemental, c'est lorsqu'on était en mer, on regardait dans quelle phase comportementale se situaient les dauphins. Donc, ils pouvaient être soit en chasse, soit en train de se déplacer, soit attirés par le bateau, soit en train de se reposer ou soit en train de socialiser. Et en fait, selon ces stades comportementaux, ils ne vont pas forcément émettre le même type de sifflement. Ils ne vont pas forcément réagir de la même façon, potentiellement, aux signaux de la balise, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette variable comportement en compte, après, dans nos analyses statistiques.
Et après, donc, il y avait différents contextes, présence ou absence d'un filet de pêche, et activation ou non-activation de la balise.
Exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, on a essayé de comparer la réponse comportementale acoustique des dauphins avant, pendant et après l'émission de la balise acoustique, pour voir s'il y en avait des différences significatives en termes de type d'émission. Donc, est-ce qu'ils écolocalisaient plus, par exemple? Est-ce qu'ils sifflaient différemment? Donc, est-ce qu'ils communiquaient différemment? Et ceci en présence ou en absence de filet.
Alors, justement, c'est quoi les résultats en absence et en présence de filet? Loïc,
alors, du coup, ce qu'on a constaté, nous, on a mesuré certaines caractéristiques des sifflements, notamment à quelle puissance ils étaient émis, quel était leur niveau de complexité, quelle était leur durée, etc. Et donc, pour les filets, par exemple, on se rend compte que les signaux qui sont émis lorsqu'il n'y a pas de filet sont en général plus puissants, pardon, que quand ils sont émis quand il y a un filet qui est présent. Et donc, ça montre que les dauphins, dans leur communication entre eux, réagissent à la présence ou non d'un filet. Donc, avec l'acoustique, on voit comment se comportent les dauphins, finalement.
Oui, Bastien Mérigot.
Et après, au-delà des sifflements, ce qui était intéressant aussi, c'est lorsqu'on a analysé les clics d'écolocalisation, on a vu qu'en fait, lorsque la balise était activée, ils allaient écolocaliser deux fois plus. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de détecter beaucoup plus ce qui se passe dans leur environnement. Et donc, potentiellement, ils ont plus de probabilité de détecter le filet lorsque la balise est en train d'émettre. C'est vraiment l'objectif aussi, nous, quand on cherchait avec ce dispositif-là, quoi. C'est favoriser la détection du filet par les dauphins.
Mais du coup, est-ce que vous avez eu un effet combiné des trois, l'activation ou pas de la balise, la présence ou pas d'un filet et l'état comportemental du dauphin en fonction de ce qu'il était en train de faire, pêcher, bouger, socialiser? Qui veut répondre, Loïc Lenoff?
Oui, je vais le faire. Oui, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet des deux. Pour reparler des clics d'écolocalisation, puisque c'est ce qu'émet la balise, on s'est rendu compte que lorsqu'il y a un filet et que la balise est activée, eh ben, les dauphins vont beaucoup plus écolocaliser que quand il n'y a pas ces deux conditions. Et même une interaction des deux, quand il y a la balise qui est activée mais qu'il n'y a pas de filet, les dauphins vont écolocaliser mais pas autant que s'il y avait un filet. Donc il y a vraiment une interaction de tous ces facteurs les uns avec les autres, et c'est valable pour les clics d'écolocalisation, c'est aussi valable pour les sifflements émis par les dauphins.
Moi, j'ai une question un peu naïve. Est-ce que c'est exagéré de dire que vous parlez dauphin?
C'est un tout petit peu exagéré.
Voilà. On va pas jusque-là, mais quelque part, ouais, c'est essayer quand même de leur transmettre une information qu'ils sont censés pouvoir comprendre. Donc, quelque part, c'est essayer de communiquer avec eux. Après,
vous parlez
on n'en est pas à traduire les propos des dauphins, mais on essaie de les comprendre, en tout cas, ça, c'est vrai.
Alors, cette balise, elle a été repérée évidemment par l'État français. Un plan d'action a été introduit en 2024, c'est ça, jusqu'en 2026 pour évaluer leur efficacité. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant, alors, ce plan d'action?
Alors, pour l'instant, c'est toujours en mise en place, on va dire. Il y avait eu un premier plan d'action qui avait été décrété en 2023-2025, qui a été décalé à 2024-2026. Et donc, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir tester à grande échelle, c'est-à-dire sur beaucoup de navires et un nombre très important d'opérations de pêche, l'efficacité de deux dispositifs acoustiques pour voir s'ils sont en capacité de limiter les captures accidentelles. Parce qu'en fait, on avait déjà, nous, réalisé des tests en complément des réponses comportementales des dauphins, des essais avec donc, les pêcheurs professionnels pour savoir s'il y avait moins de captures ou pas. Donc, on avait des résultats très prometteurs. Mais on avait réalisé ça sur 10 navires et 1000 opérations de pêche, ce qui est insuffisant pour avoir des tests statistiques robustes. Et donc, en fait, l'État français a décidé de retenir ce dispositif-là avec un autre, pour réaliser un test à grande échelle et avoir donc des données plus fiables, on va dire, plus robustes pour essayer d'identifier la capacité à limiter les captures.
Et comment ça a été accueilli par les pêcheurs, qui sont quand même très concernés,
ouais,
j'imagine.
Ouais, ouais. Alors, en fait, ça va dépendre des pêcheurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs métiers de pêche. Là, c'est les filayeurs qui sont concernés. Les filayeurs, ils peuvent aller jusqu'à 40 km, voire plus de filets, donc c'est énorme. Sachant qu'en fait, la balise, elle doit être disposée tous les 500 mètres. Donc, sur les filayeurs qui utilisent entre 200 mètres et 5-10 km de filet...
C'est énorme. On ne se rend pas compte des...
Voilà. Pour eux, c'est encore réalisable en termes de manutention. Par contre, dès qu'on va à plus de 5-10 km, ça peut être problématique parce qu'en fait, ils ont des dispositifs dans lesquels passe le filet. Et certains dispositifs sont assez étroits et le diamètre de la balise fait que ça ne passe pas. Donc ils sont obligés de déclipser et reclipser la balise. Donc ça, c'est, pour eux, c'est une contrainte. Par contre, dans d'autres dispositifs, donc ça s'appelle la pommailleuse, c'est le dispositif où passe la balise. Cette pommailleuse est suffisamment large et donc là, ils n'ont pas de manutention. Voilà. Donc en fait, c'est accueilli positivement ou négativement selon les types de métiers et types de pêcheurs. Quoi, ouais.
On arrive à la fin de l'interview. Quelque chose à rajouter, Loïc Lesneuf ?
Oh non, je pense que tout a été à peu près dit. Je pourrais rajouter que là, sur nos travaux actuels, on continue de s'intéresser aux sifflements parce qu'en fait, on sait que les dauphins produisent des sifflements qui ressemblent un petit peu à des prénoms. Et donc là, on s'intéresse à savoir si les dauphins communs dans le golfe de Gascogne ont des prénoms finalement.
Comme les éléphants, l'étude qui est sortie cet hiver, c'est ça, on en parlait. Hein. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant et on continue de suivre vos travaux. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Donc on l'a dit, Laurent Dagorne, directeur du Centre de Recherche en Biologie Sous-Marine à Marbec, nous a accueillis à 7 sur une des plateformes du Centre Célimère, la plateforme de biologging. Alors le biologging, qu'est-ce que c'est ? C'est le marquage d'animaux, dans notre cas des animaux marins, thon, tortue, sardines, avec des balises qui permettent d'enregistrer leur déplacement et bien d'autres choses. Des balises, il en existe de toutes tailles, de toutes sortes, et c'est ce que nous présente Laurent Dagorne, en présence d'autres chercheurs en biologie sous-marine.
Du coup, le biologging, c'est l'instrumentation des animaux marins. Donc, on leur met des marques ou des balises. Je vais vous parler de ces balises-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les suivre et voir où est-ce que ces animaux vont. Mais en même temps, on les utilise parce que c'est un moyen pour nous d'observer l'environnement. Parce qu'en fait, ils observent pour nous. Donc, on collecte aussi des informations sur l'environnement à partir de ces animaux. Donc, on étudie leur comportement et l'environnement à partir de ça.
Alors en face de nous, il y a 4 types de balises, c'est ça ?
Il en manque surtout un que j'ai dans ma poche. Alors celui-là, il fonctionne avec lui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des marques acoustiques. La taille dépend en fait de la batterie, de la puissance. Mais bien entendu, je ne vais pas mettre une marque comme ça dans une sardine.
Donc le petit cylindre de 5 cm, là, il va chez qui ?
Non, alors ça, en fait, on le met. En fait, on fait une opération chirurgicale sur le poisson.
Ok, oui.
C'est-à-dire que si le poisson est petit, on l'endort. S'il est trop gros, comme un thon ou un requin, en fait, alors... Il y a sur les thons et les petits requins, on les hisse à bord. On ouvre la cavité abdominale, on met la marque dedans et on recoue. Il faut faire ça en moins d'une minute. Eux, ils sont hors de l'eau, c'est pas leur milieu, donc il faut agir assez vite. Et donc on fait ça. Et quand les requins sont trop gros, en fait, on les laisse dans l'eau, à la surface de l'eau, et du coup, on les opère depuis le bateau, donc en étant par-dessus bord.
Sur les zodiacs.
Ouais, donc il faut se mettre sur des bateaux très bas, comme des zodiacs. Et donc du coup, on le laisse comme ça. Et là, par contre, on a plein de temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas pressé. Parce qu'il est dans son élément. Il est dans l'eau, on est tranquille. Donc là, si on veut prendre une demi-heure, on prend une demi-heure. C'est juste que ce n'est pas confortable parce qu'on se prend les vagues dans la gueule, ça bouge plus que sur un bateau, etc. Mais par contre, on est tranquille et l'animal est mieux. Quoi.
Et vous faites ça sur combien d'animaux ?
Alors, par exemple, là, ce que j'ai cité, là, on a fait 26 espèces dans le golfe du Lion.
600 ?
Ouais, 650 individus. En fait, ici, dans ce laboratoire, on a dû marquer déjà plusieurs milliers d'individus sur tous les océans. Et ça va des toutes petites espèces. En tout, je crois qu'on est à 60-70 espèces différentes qu'on marque. Bien sûr, les toutes petites, on ne peut pas encore, parce qu'on dépend de la miniaturisation de ça.
Ça, c'est le plus petit, du coup, qui existe ?
Je crois qu'il y a encore plus petit, je crois.
D'accord.
En tout cas, ça, c'est une technologie relativement simple. Ça émet un son, ça émet un code. Il dit « je suis numéro 3425 ». Il l'émet toutes les minutes, toutes les deux minutes. Et donc, si ça passe à proximité de cet hydrophone, ça, c'est un hydrophone avec des batteries à l'intérieur. On met ça au fond de l'eau.
C'est un cylindre noir d'à peu près 30 cm.
Voilà, c'est la taille d'une bouteille d'eau, en fait. Et du coup, si ça passe, alors, on va dire que ça dépend de la puissance de la marque, mais entre 100 mètres et 1 km, suivant la puissance, eh bien, on sait que ce poisson-là, il était présent aujourd'hui, 2 juin, 13h46, etc. Et tant qu'il va rester autour, on va le savoir. Et puis, quand il va partir, on sait qu'il n'est plus là, mais peut-être qu'il est détecté par une autre, qui est un peu plus loin. Donc, entre-temps, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais donc, en mettant des réseaux, on a une idée de où est-ce qu'ils vont. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur tout le littoral du golfe du Lion.
Et des grosses balises comme ça qui servent de relais, vous en avez combien ?
Là, ici, on a plus de 200.
Et ça permet de les suivre combien de temps ?
Alors, il y a des marques qui peuvent durer 5 ans. Alors, encore, mais... suivant la puissance.
Question, bah, si elles sont pêchées, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, c'est... très bonne question. Si elles sont pêchées, alors, normalement, on a une petite indication ici, mais sinon, on met une petite marque spaghetti, c'est-à-dire... une marque en plastique, ce qui fait qu'il y a notre adresse et donc le pêcheur nous contacte. Ce qui fait qu'il peut récupérer... Nous, on peut récupérer la marque pour la réutiliser. Et puis eux, ils peuvent avoir une petite...
Ils le font ?
Oui. Donc ça, c'est les marques acoustiques. Et après, il y a des marques, on va dire, qui enregistrent, comme ces marques-là. Ça veut dire qu'elles, elles n'enregistrent rien, elles ne font que émettre. Mais il faut qu'elles soient détectées par ça. Et ça, ici, c'est des marques archives. Donc, on les met pareil en chirurgie. Alors, c'est pas grave parce que ça, ça sort du ventre, par contre. Ah,
okay. D'accord. Donc, ouais, je décris encore. C'est un cylindre transparent du ventre. Et effectivement, c'est une, voilà. C'est une sou... On dirait une sou... Enfin, c'est...
Voilà. En fait, c'est un capteur de lumière et de température qui sort.
Ah, c'est pour faire du proxy physique, quoi.
Ouais, oui, en fait, c'est aussi. Pourquoi ? C'est parce que...
Et pour la position.
Le GPS ne marche pas sous l'eau. Donc, comment est-ce qu'on connaît la position de quelque chose qui est sous l'eau ? Et en fait, on utilise ce que les navigateurs faisaient au Moyen-Âge, etc. C'est-à-dire qu'on essaie de calculer la durée du jour. Parce qu'avec la durée du jour, on saura...
Et la date.
Voilà, et la date, on saura sur quelle... Alors que je ne me trompe pas, sur quelle longitude on se trouve. Et avec l'heure de midi, on va pouvoir savoir quelle est la latitude, puisqu'on fait le décalage avec Greenwich. Et donc, en fait, ce capteur de lumière nous donne le lever du soleil, le coucher du soleil. Donc, avec ça, on a la durée du jour. Et puis, on a midi. Donc, avec ces deux informations-là, on recalcule les algorithmes, on calcule la position. Alors, ce n'est pas une position à 100 mètres. C'est une position qui va quand même être un peu incertaine. Donc, on utilise ça, en général, pour les migrations transocéaniques. Si on veut savoir, si par exemple, on marque un ton rouge ici, si jamais on va le récupérer... en Floride. Là, ça va être efficace. Parce que là, on va avoir tout le trajet. Et par contre, si on marque un poisson comme ça dans l'étang de Thau pour voir s'il est allé de l'est de l'étang de Thau à l'ouest, c'est idiot. C'est pas adapté.
Et lui, vous allez voir, lui, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. C'est en fait Argos. Donc, okay, on, met sur, Argos. On le met sur une nageoire. Donc, c'est uniquement pour les animaux qui, à un moment donné, vont percer la surface. Donc, ça veut dire quoi ? En général, ça peut être des tortues, ça peut être des requins lorsqu'ils ils ont la nageoire qui passe au-dessus de la surface, ou ça peut être des mammifères marins.
Comment tu fais ça sur une tortue ?
Alors, ça ne va pas être avec sur ce système-là, ça va être collé, en fait. Ça ne va pas être avec des vis. Et donc, le coût de tout ça, les marques comme ça, c'est entre 300 et 600 euros, pièce.
Donc là, on est sur les petites.
Les petites.
Ouais.
Le récepteur, c'est 1500 euros. Donc, quand il vous en faut 200, c'est un certain chiffre.
En fait, c'est le volume qui fait le...
Ça, à la louche, c'est 1000 euros. Et ça, c'est 4000 euros.
Ok, celui qui ressemble à une grenade, c'est 4000. Et ceux-là, vous ne les récupérez pas forcément.
Non, de toute façon, on considère que tout, c'est perdu. Hein.
Qui fait ça ? C'est des entreprises françaises ? Alors,
non, alors pour l'instant, c'est des entreprises américaines et canadiennes qui sont leaders sur le marché. Il y en a très peu. C'est vraiment une très haute technologie.
Et ça évolue vite, la technologie ?
Très vite. Ouais.
Avec les drones, il n'y a pas moyen aussi, à partir des bateaux...
Alors,
de...
si. Il y a des moyens, notamment pour essayer de suivre en direct ce genre de marque.
Alors, pour les applications, donc, on peut suivre l'immigration, on peut s'intéresser à l'environnement. Est-ce qu'il y a d'autres applications ? La pêche, par exemple ?
Non, pas du tout. Les applications, c'est vraiment d'abord l'écologie et voir où est-ce qu'ils vont. En gros, on ne peut pas faire d'air marine protégée si on ne sait pas où vont les animaux. Donc, c'est déjà le béaba, on va dire, pour faire des gestions spatiales. Et après, du coup, ça peut être utilisé pour la gestion des pêches, justement, quand on sait où est-ce qu'ils vont. Par exemple, quand on marque des requins, si on sait qu'il y a des endroits où ils vont plus particulièrement, pour essayer d'éviter ces zones, c'est ce qu'on essaye de faire.
D'accord. Et j'accueille maintenant notre invitée des trois dernières minutes, Anaëlle Francia. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science.
Merci.
Donc, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes étudiante en master de gestion de l'environnement et de la biodiversité et vous nous présentez aujourd'hui le programme des 8 jours de la biodiversité qui se tiendront sur plusieurs sites de Montpellier du 12 au 19 février. Alors, pour commencer, Anaëlle, les 8 jours de la biodiversité, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les 8 jours de la biodiversité, c'est un événement, donc, comme vous l'avez dit, qui se déroule sur une semaine. Donc, c'est la seconde édition cette année. L'idée, en fait, c'est de proposer plusieurs événements au cours de la semaine, donc comme des conférences, des ciné-débats ou encore des sorties naturalistes à notre public pour proposer un maximum d'événements à nos adhérents pour sensibiliser et faire découvrir le monde de l'environnement en héros.
Alors, c'est un événement organisé justement par Arborescence, un collectif interassociation qui regroupe 5 associations engagées dans la protection de la biodiversité et de l'environnement dans l'Hérault. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles ?
Alors oui, donc d'abord il y a le GNOME, donc le groupe naturaliste de l'Université de Montpellier, donc, qui est une association étudiante mais ouverte au public. L'association Arcio, donc c'est l'association du master gestion de l'environnement et de la biodiversité, donc le master
dans lequel vous êtes inscrite. Ouais.
Exact, j'étais présidente l'année dernière. L'association Fiber Nature, donc qui œuvre beaucoup en Hérault et aussi en Ardèche. Également l'association Un diplômé un arbre, qui est une association étudiante. Et enfin, l'association Thème 3, donc Terre étudiante Montpellier, de l'université Paul Valéry.
Alors j'ai regardé le programme de ces 8 jours, il est très dense, on pourra pas le parcourir en entier, mais il est sur la page de l'émission et sur la page donc, de Divergence. Est-ce que tu peux nous donner un condensé ou alors quelques focus sur des rendez-vous ?
Alors le premier, ce sera donc le mercredi 12 février à la Fac des Sciences, donc à 18h30, c'est une conférence animée par Jacques Tassin qui est le parrain de cette édition. Ensuite, donc, on a par exemple une table ronde organisée au cours d'Hydro avec Alix Kosker, Guillaume Bagnolini et Jacques Tassin, donc, qui discuteront sur les perceptions de la nature par l'homme. Et enfin, par exemple, une sortie naturaliste donc, en bateau avec Découverte du vivant, donc, au départ du Gros du Roi. Le samedi 15 février.
Je le conseille, j'ai eu la chance de le faire avec le Gnome il y a quelques années justement, c'était absolument génial. Donc en gros, il y a un événement tous les jours du 12 au 19, c'est ça ?
Exactement, un événement ou deux.
C'est en entrée libre, c'est sur inscription, comment ça se passe ?
Alors pour les conférences et ciné-débats, c'est entrée libre. Et pour les sorties naturalistes, c'est sur inscription avec un QR code. Et donc on propose une participation libre pour soutenir l'Interasso Arborescence.
Alors, et je crois que par contre, la sortie en bateau, ce qui semble logique, est tarifée, 40 euros, je crois.
Effectivement, avec un petit tarif réduit grâce à l'Interasso.
Et on part toute l'après-midi, vraiment, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Annaëlle Francia.
Merci à vous pour votre invitation.
Et revenez quand vous voulez pour nous parler de vos initiatives. Alors, vous retrouverez toutes les informations concernant donc, les 8 jours de la biodiversité, comme je l'ai dit, sur la page de l'émission sur le site de Divergence et sur la page de l'émission sur le site de l'Université de Montpellier. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Robin Layou pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.